Stammtisch, toute l'actu du HCBN proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.
Hello à toutes et à tous, tapis rouge à l'entrée ce soir, champagne offert pour tout le monde, on a mis les petits plats dans les grands, on fait les choses en grand car on reçoit le capitaine du HCBN, Gaëtan Haas. Qu'est-ce que je vous sers d'autre? Gaëtan, justement, qu'est-ce que tu veux boire?
Tu me mets un café Lutz, j'ai bu ça à Adelboden il y a deux semaines et ça se passe bien depuis là.
Pour les courses de ski, t'étais
ouais,
à Adelboden.
Un bon petit push pour la fin de championnat.
Là. Super, alors on en a évidemment, Laurent.
Oh, tu meurs du champagne, c'est du Le Gras A, ça, c'est,
ouais.
ça existe, hein, c'est rien contre, je suis pas en train de dire que Gaëtan est gras, hein, c'est pas ça.
C'est exactement ce qu'on a en stock, c'est parfait, Cyril.
Moi, je prends un milkshake de protéines parce que, comme tout le monde, j'ai repris mes entraînements en début d'année.
Bien, parfait, c'est noté, j'arrive dans 5. Bonjour à toutes et à tous, l'Stammtisch reçoit pour la 5e fois de son histoire le capitaine Gaëtan Haas. Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Salut Gaëtan, tu vas bien?
Bah, c'est un plaisir, écoute, j'ai rien d'autre à faire ce soir. Ça va bien.
Merci beaucoup. Alors, je suis Lyndon Viglino, centre de l'Stammtisch. Gaëtan, tu connais tellement bien l'émission maintenant que je te laisse, toi, faire la présentation des deux alliés.
Je crois qu'on a allié droite Cyril Pache qui est en duel avec Rayala pour même 2 points. Et puis, on a à gauche Lolo Kleissel, qui est bientôt directeur de toute la tour où on se situe.
Tour que tu connais extrêmement bien, Gaëtan, d'ailleurs. Hein. Tu nous as attendu dans le studio.
On m'a ouvert, ouais, on m'a ouvert les portes. Donc
on a dû se croiser dans l'ascenseur. Non, il faut dire l'anecdote. On arrive en bas avec Lyndon pour l'attendre. Et puis, il y a un gars qui descend, un journaliste. Fait, ah, je crois qu'il y a Gaëtan Haske en haut qui vous attend.
Tu étais déjà en train de te servir ton verre d'eau, comme à la maison.
Magnifique.
Cinquième invitation. Tu connais tout désormais. Alors, pour celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois, ça peut arriver, et qui ne te connaissent pas, Gaëtan, ça y a encore moins de chance. J'ai repris une présentation trouvée sur Internet, je vous dévoilerai la source juste après. À 31 ans, ce bonhomme charismatique, vrai leader par l'exemple, incarne déjà le retour au premier plan d'un club longtemps réduit à la nostalgie de ses vieux succès du début des années 80. Vrai biennois, bilingue et mordu de skater hockey, il témoigne aussi un attachement à ses racines qui fait plaisir à voir dans un sport toujours plus globalisé. C'est beau, c'est élogieux, oh, c'est de qui?
C'est un bon gars, je veux pas le dire.
Vous savez d'où ça vient?
Cyril Pache?
De Lionel Pittet du quotidien Le Temps, car tu as été sélectionné dans le Forum des 100 l'an dernier. Gaëtan, c'était ta présentation dans ce cadre-là.
Bon type.
Très bon type. Un autre honneur que le Forum des 100, c'est que tu as été élu cette semaine sportif de l'année 2023 par le public de la région et par les médias du groupe Gassman. Félicitations.
Bravo. Merci.
Sportif de l'année.
Dommage, il n'y a pas de prix cette année.
C'est honorifique. C'est un titre quand même. Hein.
C'est un titre.
Ouais, l'argent n'a pas de lui, c'est bon.
Mais on a aussi Noah et puis le titre d'équipe. Hein.
Enfin, exactement.
Noah en tant que jeune.
Et... Que espoir masculin de l'année et le HCBN comme équipe de l'année. Vous raflez 3 prix sur 5. Vous laissez l'espoir féminin et le sportif de l'année pour Simona Ebersold. On connaît tout le monde autour de la table. On va attaquer sans plus attendre. Alors, les auditrices, les auditeurs ont pu poser leurs questions, on en a reçu énormément. On va essayer d'en prendre un maximum, j'espère, presque toutes ces questions. Gaëtan, sur l'actu tout d'abord. Alors sur WhatsApp, je t'ai annoncé que ce sera un épisode 100% positif et optimiste. Je suis pas sûr que ce soit 100%, mais on va essayer de faire un haut pourcentage. On va commencer dans l'optimiste et le positif. 9 victoires sur les 12 derniers matchs, bien qu'elle remontée au 9e rang, 5 petites unités de retard sur la 6e place. Tout va bien actuellement.
Oui, bon, on est encore à la 9e place, donc ça pourrait être mieux, mais après le début de championnat, c'est vrai qu'on a, comblé l'écart, on est revenu sur pas mal de monde, on fait un bon job depuis, je dirais, 1-2 mois, surtout au niveau comptable, donc ouais, positif.
C'est grâce au retour de tous les blessés, t'as d'autres explications?
Non, pour moi, c'est clairement la raison, tous les blessés sont de retour, on a un line-up qui est dangereux, tout le monde, chaque ligne peut marquer, on est solide, pour moi, oui, l'explication est là.
Il faut quand même remarquer que le HCBN, sur les 25 derniers matchs de championnat, toutes les équipes, les 25 derniers matchs de HCBN, est 5e de la Ligue. Ça prouve vraiment que les... On est à combien? Une quarantaine de matchs maintenant?
Ouais, j'ai pas le chiffre sous les yeux, mais c'est ça. on peut le regarder.
Quelque chose comme ça, tu veux dire qu'il y a une quinzaine de matchs au début qui ont été pénibles. Et si on prend même les cinq derniers, bien les premiers, et sur les dix derniers, il n'y a que Fribourg qui fait mieux. Donc, il y a quand même, c'est là qu'on voit quand même que la Chebienne joue enfin sur sa valeur.
39 matchs pour Bienne. Cyril?
Non, pour compléter ce que Laurent vient de dire, je dirais même que sur les trois derniers, à mon avis, Bienne est premier aussi, peut-être la Ligue, avec trois victoires. Mais non, ça va bien. Ce que je note surtout, c'est qu'il me semble que c'est la première fois de la saison qu'il y a trois victoires de suite. Donc forcément, au classement, ça aide. Jusque-là, c'était toujours un petit peu... il manquait de la constance. Donc forcément, c'est pas possible de grimper au classement quand on fait... une victoire, deux défaites, une victoire et voilà. Donc maintenant, il faut un peu continuer un peu à ce rythme-là avec des séries de succès qui peuvent faire basculer l'équipe du bon côté de la barre. Ouais.
Vu qu'on parle des dernières rencontres, directement la première question d'un auditeur Mirio sur Twitter. Il parle d'un match précis. C'était le 13 janvier dernier, c'était à domicile contre Genève, vous aviez gagné 4-0 Gaëtan. Lors du match contre Genève, tu t'es fait attaquer à plusieurs reprises, mais tu t'es ensuite éloigné rapidement de tes adversaires. Est-ce que tu le fais consciemment pour rester dans le jeu, ou est-ce que c'est aussi un moyen de provoquer un peu l'adversaire?
Oh, c'est la trouille.
je me rappelle exactement de ce moment. Je crois qu'on était 2, voire même déjà 4-0 devant. Je me suis dit que ça valait pas la peine, qu'on était 4-0 devant, et puis que c'est ce qu'ils cherchent. Le Genève, c'est une équipe comme ça. Dès que ça va pas, ça commence un peu à chercher. On l'a vu l'année passée en finale, et le mieux à faire, c'est de pas rentrer dans leur jeu.
À 4-0, il s'est dit, ça vaut pas la peine que je jette les gants aujourd'hui.
C'est clair.
Fab qui demande sur Facebook, en dehors du retour des blessures, est-ce que vous avez changé quelque chose dans la façon d'aborder les rencontres?
Je crois pas énormément. Comme j'ai dit, on a un line-up maintenant. On a 4 lignes qui peuvent marquer. On a, je dirais même sur les derniers matchs, le power play qui tourne plutôt bien. Le box play, lui, est un petit peu descendu. Mais... On a un système, je pense que gentiment tout le monde a compris, tout le monde l'applique et on voit les résultats. Sinon, je pense non, je vois pas autre chose.
Ça a beaucoup fait parler. Tu parlais du power play, un power play à 5 attaquants. Tu es à l'aise avec ça?
Oui, tant que tout le monde ou en tout cas 2-3 gars reviennent en cas d'attaque des autres. Pour l'instant, ça fonctionne. Après, j'ai déjà dit à plusieurs interviews que t'es 5 attaquants, 4 défenseurs. À la fin, t'as un plan, tu l'exécutes. Si tu l'exécutes pas, que tu fais pas des bonnes passes, que tu récupères pas les pucks après les shoots, c'est toujours compliqué. Là, actuellement, on bosse bien ensemble. Et y a aussi, bien sûr, une part de réussite.
Je vous propose déjà de glisser sur un des deux thèmes qui fâchent. Alors, il y a deux noms qui reviennent beaucoup dans les questions, à votre avis.
Positivité, elle est où, là?
Ça, elle s'enlève, elle s'efface petit à petit. Les deux noms qui reviennent le plus dans les questions, Cyril, c'est lesquels, à ton avis?
Ben, certainement, je sais pas, j'imagine qu'on va parler quand même du miracle d'Orvin.
Voilà, hein. Lui, ce sera le deuxième nom. Le premier nom, on a quelques questions qui le concernent, plus ou moins. Ça peut être qui? Quelqu'un qui est souvent visé par des critiques ou des questions.
Petri.
Ouais, quelque chose comme ça. Petri Matikainen. Ouais. Alors, voilà. C'est d'abord François sur Facebook. Salut, Guillaume. Mis à part le changement de philosophie et de coaching de l'entraîneur, est-ce que toi et les joueurs éprouvez du plaisir à jouer maintenant que les blessés sont de retour? Il me semble voir davantage de sourires, de complicité et de solidarité sur la glace, mais beaucoup, entre parenthèses, trop de personnes continuent leur bashing envers Petri Matikainen, selon moi. Merci et salutations. Tu prends plus de plaisir, forcément, maintenant que vous enchaînez les bons résultats?
Bah, bien sûr que les victoires, ça aide à prendre du plaisir. Après, il y a eu un moment dans la saison où, quand le personnel était de retour et où on avait un line-up correct, où le mot d'ordre, c'était aussi prendre du plaisir. Et ça, c'est venu de Petri, vraiment d'amener un petit peu nouveau du plaisir déjà à l'entraînement. Et à partir de là, c'est vrai que déjà les résultats ont changé. Et c'est clair que les victoires aident aussi à augmenter la confiance et à continuer sur la positivité.
Eh bien, j'enchaîne avec une question moins positive de Fabrice, toujours sur Facebook. Salut Gaëtan, de ton point de vue, c'est comment d'avoir deux ailiers différents chaque deux matchs? La saison passée, la colonne vertébrale était un peu la force de l'équipe avec la H2O, les Uriquois, Salinen Rayala. Cette saison, chaque match, on a des surprises. Et s'il te plaît, ne défends pas ton coach. Nous savons que c'est un ordre de la direction de dire que le coach fait de son mieux, qu'il est motivé, blablabla. Bla bla. On l'a entendu durant 6 mois. Alors ne dis pas qu'il fait de son mieux, Gaëtan. Non, comment c'est pour toi de t'adapter toujours à des changements dans le line-up?
Je vais déjà commencer avec le fait, enfin, il n'y a jamais eu un mot dans ce sens, que ce soit dans les vestiaires ou dans les meetings. Ensuite, franchement, je reviens à la même chose, mais quand tu as tellement de blessés, tu as 8-9 blessés qui sont dans tes 3 premières lignes pendant 2 mois, à un moment, tu dois, en tant que coach, tu dois prendre des décisions et puis faire le meilleur line-up que tu peux. Donc, il y a eu des moments où, il a essayé de regrouper, je dirais, tous les attaquants offensifs dans la même ligne. Ça allait pas. Ensuite, ils ont essayé de mettre des attaquants dans chaque ligne pour essayer d'avoir une certaine balance. Ça allait pas non plus. Et c'est vrai que c'est à partir du moment où il y a vraiment eu tout le monde qui est revenu que les résultats ont suivi. Et c'est dur de remettre les lignes que Fab a annoncé quand tu les as pas à ta disposition. Je crois que depuis un moment maintenant, depuis quelques semaines, typiquement notre ligne avec Olofsson et Hofer a été reconduite. La ligne des Uriquois plus ou moins. Ensuite, c'est vrai que Eponiemi est revenu et il est plus centre. Salinen préfère être à l'aile. Donc, ils ont fait une ligne avec Eponiemi, Salinen et Kunse qui tourne très très bien depuis quelques matchs aussi. À la fin, le coach a porté sa patte et je dirais qu'au moment où il y avait l'effectif dans ses mains, il a porté sa patte et pour l'instant, les résultats suivent.
Si on parle de Petri Matikainen, on t'avait déjà invité en début de saison. Tu disais qu'il se confiait beaucoup à toi, qu'il te parlait beaucoup en tant que capitaine. Ta relation avec lui?
Ça n'a pas changé, mais en même temps, c'est avec tout le monde la même chose. Je crois typiquement, tous les joueurs qui sont surnuméraires pour un match ou plus, il les prend dans le bureau pour leur expliquer sa vision.
Ça rigole de l'autre côté de la table.
On connaît certains joueurs qui doivent passer beaucoup de temps dans le bureau du coach, ça doit être sympa pour eux.
Il y a des liens qui se créent pendant une saison. Hein.
Non, mais c'est vrai qu'il est quand même typiquement... Monsieur Pache, c'est vrai qu'il y en a qui ont quand même un rapport où tous les jours, actuellement, n'ayant pas beaucoup de temps de glace, il les prend dans le bureau à chaque fois. Après, c'est clair, c'est pas facile. T'as l'équipe qui tourne. Je pense qu'il aimerait faire jouer tout le monde, mais à la fin, tu dois faire des choix. Dernier match, je veux dire, Jespe t'es pas sur le line-up, et il aimerait pour remettre Yako. Donc, pour l'instant, les résultats suivent. Et franchement, c'est un luxe. T'as de moins en moins de blessés et ça donne aussi une concurrence dans le line-up.
Il n'y a aucune animosité, aucune... friction dans le vestiaire, tout le monde tire à la même corde et derrière son entraîneur, évidemment.
Franchement, oui. Sinon, on aurait déjà tous jeté l'éponge et puis après 15-20 matchs, il y aurait eu un changement. Ça n'a pas été le cas. Je pense que faut pas oublier que après ce qui s'est passé la saison passée, tout ce qui s'est passé niveau changement d'entraîneur qui n'était pas forcément voulu, le changement d'entraîneur suite à la maladie de Antti. Ça a été compliqué pour certains. Il y a eu l'histoire des contrats. Certains jouaient pas vraiment au niveau de l'année passée. Et tout ça ensemble a fait que le début de championnat a été très, très, très compliqué, mentalement surtout. Et là, je dirais qu'on a enfin réussi à retrouver le calme. Et on voit aussi que les résultats suivent.
Avant de parler, évidemment, on l'a déjà plus ou moins fait de Noah Delémon. Je propose de remonter le pourcentage de positivité. Ça va mieux, Cyril. Bien remonte au classement, bien est proche du top 6. C'est encore possible mathématiquement, alors on va remettre le contexte. Lugano 5e, 64 points. Ensuite, Berne 62, Genève aussi 62, Davos 59 et Bienne 57. Donc, 5 équipes en 7 points. Tu penses que Bienne peut décrocher le top 6?
Alors moi je suis pas hyper optimiste, hein, mais je l'ai déjà dit, je crois, la dernière fois. Après, je sais pas si on ose être un peu négatif.
Ce sont toi libre. Aucun mot d'ordre de la direction là aussi.
Le problème, c'est que je vois pas tellement quelle équipe dans le top 6 Bienne va dépasser, quoi. Je pense que Genève va être dans le top 6. Lugano, cette année, ils sont pas mal. Il y a des matchs en moins. Mais enfin, je pense que c'est difficile d'entrer dans le top 6 en voyant qui est déjà dedans, et le fait que Genève, champion de Suisse en titre, n'y est pas encore, mais va bientôt passer du bon côté. Donc c'est un petit peu ça le souci, je pense.
Gaëtan, c'est clairement un objectif, la qualification directe ou très simple, match après match, et on espère terminer le plus haut possible.
Ah, franchement, avec le début de championnat, c'est vraiment match après match. Il y a un moment où je pense que tout le monde a jeté le top 6 à l'eau, l'objectif de début de saison, parce que on voyait qu'on était beaucoup trop loin. Bien sûr, c'est maintenant, si tu regardes le classement actuel, tu te dis... C'est possible, mais justement, avec le début de saison qu'on a eu, rester les pieds sur terre, et voilà, on prend un match après l'autre, et à la fin, on verra. C'est clair que si à 5 matchs de la fin, c'est jouable, ça va gentiment être plus que l'objectif, mais là, on est encore loin, on a encore du travail, et je veux dire, on est déjà, je pense, content d'avoir quitté la zone très rouge après ce début de championnat.
On reste dans les chiffres, on va parler de toi, Gaëtan. 32 matchs, 11 buts, 17 assists, ça donne 28 points. Si tu continues sur le même rythme, tu vas, sauf erreur, égaler ton record de buts en saison régulière qui est de...
Je dirais 15.
Bien vu, 15. Deux saisons de suite, c'était à Berne en 2018 et en 2019. Pour l'instant, tu es sur cette trend-là.
Ça, comment tu as dit, c'était à...
À Berne.
Dis pas de gros mots, s'il te plaît, monsieur JD.
Comment t'expliques tes bonnes performances de cette saison, même si tu le disais, on l'a beaucoup dit, c'était pas un top début de saison d'un point de vue de l'équipe. Tout roule plutôt bien d'un point de vue comptable pour toi.
Oui, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. C'est vrai que quand t'as un mauvais début comme on l'a eu, en tant que capitaine, leader, tu dois montrer la voie, et il y a des fois où j'ai été beaucoup utilisé. Au début de championnat, c'était un peu compliqué physiquement, mais ensuite, il y a un moment où ça a commencé à tourner, où le physique était bien, et je veux dire, il y a aussi la réussite qui en fait partie. Typiquement, d'avoir aussi joué avec à certains moments avec des joueurs qui étaient plus des bosseurs, ben, ça devient aussi un peu à toi de mettre les goals, car ben, bien sûr, quand je joue avec Olofsson ou Offer, ben, tu te dis, bon, ben, je les mets sur le côté, puis eux, ils vont marquer. Il y a des moments où j'étais avec d'autres qui me mettaient les pucks, et j'ai eu un peu de réussite, j'ai marqué. Et ensuite, ça fait... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'en suis arrivé là. J'ai demandé aussi de l'aide mentale l'année passée, après le début de championnat. Je pense que, gentiment, ça porte aussi ses fruits. Donc, il y a beaucoup de points qui font que je pense que ça se passe plutôt bien. Mais après, c'est clair qu'il y a aussi la réussite.
De l'aide d'un ou d'une coach mentale, tu
oui,
as demandé.
Bien sûr.
C'est la première fois que tu demandais ou...
Ouais, j'avais essayé plus jeune, mais ça n'a jamais été trop ma tasse de thé, on va dire. Et l'année passée, c'est vrai que j'en ai ressenti le besoin. J'ai demandé de l'aide, et puis c'est vrai que ça m'a aidé aussi un peu à mettre le hockey de côté à certains moments. Parce que c'est vrai que je vivais vraiment hockey, j'étais dans mon tunnel toute la saison. Là, je m'autorise un peu plus de choses en dehors, en mettant aussi le hockey de côté. Et puis je vois que ça m'aide aussi mentalement à me réjouir d'aller à la patinoire.
Ça, c'est pas un sujet, j'ai envie de dire, tabou dans le vestiaire. Vous en parlez, vous vous conseillez, vous êtes plusieurs à demander ce type d'aide.
Oh, non, enfin, pour moi, c'est plus un sujet tabou. C'est clair qu'avant, tu disais, ouais, coach mental, y a des problèmes. Mais en fait, pour moi, là, avec mon expérience maintenant que j'ai vécue, je trouve que c'est vraiment une aide. Et en fait, je peux que conseiller à un certain moment. Je pense quand ça se passe pas comme tu veux ou que tu as juste besoin de parler, ben, ça fait du bien.
T'as tes coéquipiers qui vont souvent discuter avec dans le bureau du coach, tu leur as proposé les services de ton coach mental, ça peut peut-être aider, hein.
Bah, disons que j'ai aussi tendu l'oreille. J'ai tendu l'oreille pour savoir si eux ça allait, si je pouvais les aider, si ben éventuellement ils avaient pensé à prendre ce genre d'aide aussi. Mais après ça reste de toute façon individuel et chacun choisit ce qu'il veut faire. Mais ouais, il y a pas mal de points qui expliquent que ça se passe plutôt bien. J'ai aussi commencé un petit peu à l'année passée avec mes cours d'immobilier à occuper mes journées un peu différemment quand il y avait pas le hockey, et je vois que ça m'aide.
Très bien. Si on entre gentiment dans le chapitre des joueurs pour qui ça tourne un peu moins bien, on y va en douceur avec une question de Jean-Philippe qui parle pas encore de Noah. Qu'est-ce qui se passe sous le casque de ton partenaire de ligne, ce pauvre Jesper, qui touche plus souvent le cadre qu'autre chose depuis un bon moment? Comment l'aider à reconstruire la confiance qui lui fait défaut cette saison?
Bah, on a tous eu des hauts, des bas dans la carrière. Je veux dire, c'est pas que il joue mal. Il a pas vraiment cette réussite qu'il a eue, je dirais, de première saison chez nous. Bah, t'essayes d'être là, t'essayes de parler déjà en tant que ligne, d'essayer d'être meilleur, d'être plus performant en tant que ligne. Et il y a un moment donné où ben c'est clair que ça va tourner, parce que avec le shoot qu'il a et le nombre de shoots qu'il a, je veux dire, ça doit entrer à un certain moment. Maintenant, c'est clair que nous, ben en tant que ligne, on doit essayer aussi de le mettre dans les bonnes conditions pour qu'il se retrouve dans des situations où on sait que ben il est excellent, quoi.
Cyril, Laurent, si on regarde le contingent étranger, Harry Seteri, Victor Leuve, Alexander Yakovenko, Tony Rajala, Jere Salinen, ils ont tous encore un contrat à Vienne pour la saison prochaine. Il reste Alexis Eponiemi, Jesper Olofsson. Si vous êtes Martin Steinegger, vous prolongez Alexis Eponiemi, 10 points en 10 matchs, vous vous dites allez, on mise sur lui et Olofsson, il peut aller voir ailleurs. Vous avez une autre façon de voir?
Bon, on peut partir avec les deux en comptant sur cet étranger, ça serait...
Tout à fait.
La théorie, moi je préférerais Eponiemi. Bon, je sais qu'il ne faut pas faire travailler des enfants, des mineurs. Faut dans le... Même Rajala a dit, je crois que Rajala, ouais, quand il a vu Eponiemi la première fois, il a dit « Ah tiens, tu fais encore plus gamin que moi quand je suis arrivé. »
Non, c'est la même chose.
Hein. Ah, c'est... Non, Tony, qu'à des fois qu'il est venu, nous a quand même montré, il a deux, trois poils de barbe qui poussent maintenant. Mais c'est vrai que c'est assez fou quand on voit les gros plans à la télé, on se dit dans le bleu, 14 ans, il est encore plus jeune que Lindon, et puis il joue déjà au hockey. Non, sérieusement, c'est un tout bon joueur qui a tout ce qu'il faut. Il a bon sens du jeu, il a bon tir, il est bon patineur. C'est un joueur qui peut faire le spectacle, qui peut vraiment faire la différence en National League. Je pense qu'on peut même pas trop le juger pour cette saison, parce que je trouve qu'il arrive après une grande blessure, il arrive vraiment, il a tout de suite été bon. Leve a tout de suite été bon quand il est retourné, mais on connaissait Leve, et puis c'est aussi un autre rôle défenseur, une autre expérience. Le seul danger qu'il peut y avoir avec Eponiemi, c'est que de signer maintenant, puis qu'au 15 juin, il se retrouve, je sais pas où, au Detroit Red Wings, au Carolina Hurricanes, ou je ne sais où, parce que c'est le genre de joueur jeune qui peut, dans la NHL actuelle, avec sa vitesse, qui pourrait se faire une place. Donc, c'est le danger. Moi, je parierais plus sur Eponiemi que sur Olofsson, mais c'est vrai qu'Olofsson, c'est un joueur qui est très précieux. Il l'a montré l'année passée. Cyril l'a souvent dit, un des plus beaux tirs du poignet de la Ligue. Et je confirme d'ailleurs, et je pense que Gaëtan confirmera, mais c'est vrai qu'il a la poisse maintenant. C'est assez fou, quoi. Tout ce qu'il fait, il y aura la belle occasion, il y aura un bout de canne qui traîne, le gars qui se couche jamais sur un peu, qui va le faire cette fois-là, ou la latte, le poteau. C'est pas faute d'essayer, quoi. C'est un peu triste qu'il soit surnuméraire maintenant, mais bon, c'est le jeu. Puis c'est vrai, quand on regarde la panoplie des étrangers du HC Vienne, ben c'est le joueur en trop actuellement.
Cyril, quelque chose à ajouter sur Olofsson?
Non, bah Olofsson, c'est un petit peu... Je pense qu'il arrive un peu en bout de course à Vienne, parce que c'est aussi important de renouveler un peu l'équipe et puis d'ajouter un peu du sang neuf. Donc souvent, ben c'est quand même au niveau des étrangers qu'on peut un petit peu changer quelque chose. Et puis c'est vrai que si Vienne veut faire un pas en avant, il faut vraiment des gros joueurs. On voit avec Genève, quoi. Enfin, Olofsson, c'est pas non plus du Phil Poula ou du Sami Vatanen, même s'il est défenseur, quoi. Donc Vienne a des bons étrangers, mais il faut à un moment donné quand même franchir le cap suivant. Alors bien sûr, ça a son prix, hein. On est d'accord à Genève. Des fois, il y a de l'argent qui sort. On sait pas trop de où, mais voilà. Prolofsson, je pense que ça va être difficile d'avoir un nouveau contrat, même si Stony, par le passé, a montré qu'il aime donner une deuxième chance aux gens. Il l'a montré même avec Rayala, hein. Rayala qui va très bien. Mais faut pas oublier qu'il a eu des saisons qui étaient vraiment, qui étaient limites, hein, pour un étranger. Même chose avec Victor Leuf, qui revient d'une grosse blessure, puis qui a de nouveau eu un contrat de 2 ans. Donc voilà, moi j'exclus pas non plus que tout à coup il re-signe Olofsson. Finalement, c'est vrai que là on voit cette année il est pas dedans, ça y a rien qui va pour lui, mais dans l'absolu c'est un super joueur, quoi. Pour Eponiemi, 10 matchs, je trouve que c'est un petit peu court comme échantillon. Il y a un petit peu, je pense qu'il bénéficie aussi du fait que c'est le gars qui a pas joué toute la saison. Il a beaucoup pu s'entraîner, je pense qu'il est plus frais que tout le monde. Et puis, t'as un peu la chance du débutant. Donc moi, je pense qu'il faut un petit peu attendre aussi avec lui, quoi.
Tu parlais de Tony Rayala, je sais pas si le Rayalaton, on appelle ça maintenant. C'était prévu dans l'épisode.
C'est
là,
prévu, on le garde donc pour plus tard.
On le garde pour on plus garde. Tard, je vais faire une transition. On le garde pour plus tard. Ouais.
On le garde parce que là, je l'ai repoussé autant que possible ce moment-là, mais on est obligé de parler du miraclomètre, du miracle d'Orvin. Alors, on va y aller.
On en est où sur le miraclomètre?
Alors, attends, on a une question de Didier d'abord sur Facebook. Apparemment, il a lu le journal du Jura samedi dernier. Hein. J'espère que c'est votre cas aussi, messieurs. Bonjour. Pour éviter de parler à nouveau de la mise à l'écart incompréhensible et inexpliquée de Noah Delémont, je voulais connaître l'avis de Laurent Kleissel sur l'initiative pour une 13e rente AVS.
Ah ouais, c'est Vincent C, ça?
Non, c'est Didier. Hein? Didier.
Alors, Didier,
un lecteur attentif.
Écoute, personnellement, c'est une question de... Comme disent à la droite radicale, c'est une question de financement, mais je pense qu'avec le renchérissement, oui, moi je suis plutôt favorable à une 13e rente AVS. D'ailleurs, ça arrive souvent que les caisses de pension, donc de deuxième pilier, versent une 13e rente à leur abonné, on parle d'abonné, c'est des journaux ça, à leur rentier, donc c'est pas quelque chose qui n'existe pas. Alors, personnellement, oui, mais là je parle en tant que Laurent Kleissel et non pas en tant que journaliste.
Pour mettre dans le contexte. Tu parlais des votations fédérales dans ton pas de côté.
J'ai dit qu'il fallait arrêter de parler de Noah Delémont, puis qui sclérosait un peu le débat, puis qu'il faudrait que ça qui rejoue avant le 3 mars et des votations fédérales, parce qu'il faudrait bien qu'on parle aussi de cette 13e rente et puis l'augmentation de l'âge de la retraite à 66 ans, qui sont des débats de société. Alors, c'est aussi un débat de société, Noah Delémont, je n'en cache pas, parce que ça préoccupe tout le monde, mais peut-être qu'il y a d'autres sujets de discussion dans les bistrots. Je ne sais pas ce que tu en penses, la 13e rente AVS, Gaëtan.
Rien à dire.
Alors, plus sérieusement, vendredi, à Ambri Piotta, Beat Forster était malade et Noah a joué 7 minutes 51. C'est assez énorme. Samedi, à nouveau assisté à toute la partie depuis le banc. Alors, premier degré, Fabio sur Facebook. Hello l'équipe. Gaëtan, tu es aussi passé par des périodes comme celle vécue actuellement par Noah Delémont. Qu'est-ce que tu lui souhaites? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller?
J'ai déjà parlé 2-3 fois avec Noah. C'est une situation en fait que j'ai aussi vécue quand j'étais jeune. Tu joues, tu joues pas. En tant qu'attaquant, t'es 13e ou t'es en tribune. C'est pas facile à gérer. Mais déjà, ce que je lui souhaite, oui, je lui souhaite de trouver un temps de jeu, de trouver son jeu aussi, je pense. Je veux dire, on est tous, on sait tous ce qu'il peut apporter offensivement. Il y a des moments où, bien sûr, si t'apportes pas offensivement, faut que défensivement tu sois bon. Et oui, je veux dire, j'ai eu des discussions avec lui. Moi, le conseil que je lui ai donné, c'est il y a une chose à faire, c'est de pas laisser le choix au coach de te faire jouer en fait. Bien sûr, maintenant actuellement c'est compliqué parce qu'il reçoit pas vraiment de temps de glace, mais en fait c'est déjà depuis le début de saison. T'as un nouveau coach, tu dois juste pas lui laisser le choix de te faire jouer. Et maintenant, oui, là on est sur la fin de saison. Je veux dire, on a eu un mauvais début de saison. Maintenant ça va mieux, donc c'est compliqué de retrouver du temps de glace quand l'équipe va bien.
Une question de Fab sur Facebook qui demande comment, en tant que capitaine, tu gères ces mises en retrait de coéquipiers. Est-ce que tu as des explications du coach pour pouvoir justement travailler à cette cohésion de groupe?
Je veux dire, ça n'a jamais été un souci par rapport à la cohésion de groupe. Je veux dire, c'est un super gars, Noah. Maintenant, je veux dire, ça fait aussi, je pense, un bon mois qui montre à l'entraînement qu'il en veut, qu'il bosse plus encore. Donc, ça atteint pas du tout le groupe. Après, c'est clair, t'essayes au mieux de faire pour que tout le monde soit dans le truc, mais c'est toujours compliqué parce que ben en même temps tu dois aussi regarder pour toi que tes performances jouent, et c'est ce qui rend aussi la chose de, je dirais, de capitaine un peu leader compliqué, c'est que tu dois toujours un peu regarder que ça joue pour l'équipe, mais qu'en même temps ça atteint pas vraiment tes performances.
Cyril, c'est ton sujet actuellement. Tu veux dire quelque chose? Tu veux t'exprimer?
Non, mais des fois, je me dis, Matti Kainen, il doit rentrer le soir chez lui, puis il doit se dire, mais c'est qui ce Noah Delémont? Il y a tout le monde qui me parle de lui, quoi. Tu sais, je pense qu'il doit faire des recherches sur Google pour regarder qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que c'était pas le meilleur joueur du HCBN ces 8 dernières saisons? Puis j'ai pas vu ça, quoi, tu vois. Mais non, je pense que Gaëtan dit un truc très juste, c'est que en fait le plus simple, c'est de jamais donner la chance à un coach de pas te faire jouer, quoi. Alors ça paraît simple comme ça à dire, mais y a rien de plus vrai que ça, en fait, quoi.
Cyril, on aborde un sujet qui fâche, alors on va continuer là-dessus. Tu restes un peu dans le même mood.
On est où la positivité là?
Mais qui fâche pour Cyril sur ce coup-là.
Heureusement que vous avez gagné les trois derniers. Moi, je serais pas venu.
Cyril, Tony Raiola, il t'a égalé. 349 points inscrits en carrière sous le maillot biennois. Il faut encore qu'il en inscrive un en trois matchs pour gagner son pari. Alors, d'après moi, il y a encore un joker que tu détiens, la naissance de son second enfant. Peut-être que ça va changer des choses dans sa vie. Il sera fatigué, il pensera un peu moins au hockey. Mais ça me semble compliqué que tu remportes ce pari-là. Toi, tu y crois encore?
Alors oui, moi j'y crois parce que, alors peut-être que Laurent va m'aider avec la référence filmographique qui est peut-être pas exactement juste, mais je dirais quand même que le plus dur, c'est de conclure. Et il reste trois matchs, si je me trompe pas, avant la fin du mois de janvier, donc... voilà, moi je baisse pas les bras.
Sur un malentendu.
Sur un malentendu, je peux toujours être là début février. Voilà.
Très bien.
Bon, si on regarde les stats, Gaëtan il est 17e.
Exactement.
Si on prend toute époque confondue, play-off, play-out, la totale, saison régulière.
17e.
T'es 17e avec 223 points. T'es 2 points derrière René Fourrière, un autre capitaine, et 3 points derrière Marc-Antoine Pouliot. Donc après, il y a Serge Meyer qui est beaucoup plus devant, mais il y a une autre statistique.
Mais après ça se monnaie, hein, tu sais. Moi, je peux ne plus mettre de passe sur le powerplay à Tony. Hein, je veux bien en parler, hein, s'il faut.
Bon, il y a une autre statistique où c'est que Cyril ne va pas être rattrapé. Dans l'histoire du club du HCBN, c'est le deuxième joueur le plus pénalisé de l'histoire du HCBN.
Tony, non.
Avec 894 minutes de pénalité en 547 matchs. Non, c'est pas Martin Schneider, le premier. Il n'a pas fait assez de matchs à bien, sinon il aurait... C'est un autre défenseur. Tu as joué avec aussi, d'ailleurs.
Une grosse main.
Serge Meyer. Ben oui, Serge Meyer, quand même. Hein. Tout seigneur, tout honneur, on le salue bien.
Mais t'as déjà dit la statistique, hein. Toi Gaëtan, t'es 17e à 126 points de Cyril pour l'instant. Mais du coup, tout bientôt, ce sera Tony, le quatrième meilleur compteur de l'histoire du HCBN. Et on a une question d'un auditeur, je vais retrouver son nom, parce qu'on a reçu beaucoup de messages sur ce record ce week-end. Dylan qui demande, est-ce que Tony, on a parlé dans le vestiaire, est-ce que justement il t'a demandé de l'aider à atteindre ce record-là?
Non, ça n'a pas été un jeu. Mais je me ferais un plaisir d'y mettre la passe au powerplay. Là. Il ne veut rien donner, le poche.
Prochain point, il regardera la tribune de presse. Et...
il faut regarder le puck, là.
Ah bon, on rigole avec cette histoire de... Mais non, mais moi, honnêtement, tu sais, quand je lis les noms, Normand Dupont, Richemont Gosselin, tous ces gens-là, je me considère pas du tout légitime dans la comparaison, hein. Donc en plus c'est pas les mêmes ligues, c'est pas les mêmes époques, donc voilà. Mais après, si on tient vraiment à cette comparaison, j'ai quand même, une fois que Raiola m'aura passé, j'ai quand même je pense que je peux tenir un petit moment quand même devant Gaëtan, quoi,
hein. Ouais, bon, faut signer encore un de contrat, je pense.
Tu resteras dans le top 5, c'est déjà très bien. On est déjà à une trentaine de minutes dans cet épisode, alors je propose de directement passer aux questions des auditrices et auditeurs qui concernent toi, Gaëtan Haas, dans le privé. J'ai fait deux catégories, privé hockeyeur et privé en tant qu'homme. Alors on va passer en tant que privé hockeyeur. Beaucoup de questions, d'abord celle de Tris sur Insta. Salut Gaëtan, ne t'inquiète pas, je ne poserai aucune question sur Noah, je pense qu'il y en aura assez, il a raison. J'ai une question qui me trottine dans la tête, comment tu trouves l'ambiance à la Tissot Arena comparée aux autres stades dans notre ligue, où nous situons-nous? J'aurais bien voulu avoir le point de vue d'un joueur.
Bon, ça dépend du contexte. Je veux dire, début de saison, c'est clair que c'était pas la grosse ambiance, mais on méritait pas forcément la grosse ambiance non plus. Donc après, si je regarde au niveau des playoffs, la saison passée ou même toute la saison passée, parce que c'était une saison quand même assez exceptionnelle, on est clairement dans les meilleurs.
Une question de Pamela, ou plutôt du fils de Pamela, pour ta routine d'avant-match. Il demande des conseils. Qu'est-ce que toi, tu fais avant un match? Il demande pourquoi il faut arriver 2 heures avant le début de la partie à la patinoire. Qu'est-ce que tu fais, toi, durant tout ce temps à la Tissot, du coup? Et qu'est-ce que tu manges, ou est-ce que tu manges, d'ailleurs, avant un match?
Ça fait beaucoup, là. oui, je mange des 4 heures. Ça va être un muesli, sandwich ou tartine au miel. Et ensuite, alors pourquoi 2 heures avant? Ben, en fait, peut-être les gens se rendent pas compte, mais on s'échauffe déjà avant d'aller sur la glace. Il y en a qui vont au massage, il y a les cannes à faire, il y a des meetings. On peut éventuellement parler du power play, du box play ou 5-on-5. Tout dépend le travail qui a été fait le matin ou le jour avant. Moi, qu'est-ce que je fais? Ben, j'arrive, je fais mes cannes. Ensuite, je commence un petit peu à masser certains points, que ça soit sous les pieds ou autre. Et ensuite, je pars sur le vélo, je fais mon échauffement en dehors de la glace et je viens m'habiller, enfin, ouais, m'équiper.
On a tendance à l'oublier, mais c'est un boulot, hein, hockeyeur, c'est du boulot, quoi.
Oui, alors c'est vrai qu'il y en a, ils ne se rendent vraiment pas compte. Hein. je veux dire, on rentre des fois quand même à 3h du mode de Lugano. Hein.
Oh, mais pas forcément de Lugano. Hein.
Toi aussi, Cyril, évidemment, c'était aussi toujours muesli avant les matchs pour toi.
Ça date un peu. Voilà, pain, fromage, un décide rouge et puis moteur. Quoi. Non, ça date un peu, mais oui, je pense que ça n'a pas. Oui, un peu des trucs énergétiques, quoi.
Très
j'ai
bien.
Peut-être pas pris assez, en fait.
Alors, il y a une petite anecdote, je ne vais pas donner de nom, hein, juste époque, début années 80, c'était des premières saisons du HC Ajoie, en Ligue Nationale B. Non, ça, t'étais à peine né, Cyril, t'inquiète pas, c'est pas toi. Il y a un joueur qui avait pour habitude de faire un footing avant le match, qui partait assez tôt pour aller faire son footing avant le match, il allait derrière la patinoire du Voibeu, le long du camping, etc. Et puis, il y avait un petit bistrot un peu plus loin. T'as entendu, c'était des anecdotes. On va pas donner de nom. Hein. Il y avait la porte de la cuisine derrière qui était ouverte toujours. Et puis, quand il arrivait, il y avait sa petite topette de deux décis de vin blanc. C'était l'échauffement d'un monsieur dont le fils est devenu une célébrité. Là, il y a un Roche-Saint-Jean. Non, pas trop. Voilà, c'est une anecdote qu'on va compter plusieurs fois. Donc, comme Gaëtan la connaît aussi, visiblement, c'est pas juste une rumeur. Donc, c'était le hockey du début des années 80. Là. Je pense pas que tu te fais tes deux décides blancs avant un match. Quoi.
Franchement, ça serait volontiers, mais ça a beaucoup trop évolué pour que tu le fasses.
Une question de Claude Alain. Alors, pour être honnête, j'ai hésité à mettre dans la catégorie Gaëtan As hockey ou Gaëtan As privé. Mais si je mets dans privé, ça prend une toute autre tournure. Alors, j'ose espérer qu'il parle de hockey. Coucou Gaillot, si tu avais le choix, avec qui aimerais-tu faire une triplette la prochaine saison?
Il devient graveleux le jeu, là.
Ça devient compliqué, hein, ces questions. Hein.
Non, ta ligne d'attaque idéale, ce serait qui?
Non, mais ben, de toute façon, voilà, Offert, bien sûr, et Olofsson, ben, c'est pas dans mes cordes de décider, mais ben, c'est une ligne qui va plutôt bien. Donc, oui.
Et puis Noah Delémont derrière?
Ben, écoute, je joue pas tout le temps avec les mêmes défenseurs. Hein, ils sont que 6 ou 7.
Non, mais pour répondre à la question, donc du coup, s'il n'y avait pas Olofsson ni Offert, ce serait qui? Tu dois en choisir 2 autres. Bah. En sachant que tu t'adores Olofsson et
Franchement, moi je suis pas.
Tu peux prendre des défenseurs. Hein,
ouais, c'est... bah c'est vrai qu'il y en a qui.
Grossman, Radgeb.
Ouais, Radgeb sera plus là. Non, il y en a beaucoup.
Non, mais franchement, je suis pas du tout. Ça, franchement, il y a tout qui me va. Enfin, tu reçois des ailiers, puis ensuite, tu essayes de monter une ligne qui marche et d'avoir. De jouer le même hockey.
Tu reçois des ailiers. Bon, des fois, c'est pas un cadeau. Hein.
je vais accélérer parce qu'on arrive déjà au bout du chrono. Flo qui demande, Gaëtan, tu peux changer une chose, baguette magique chez toi, que ce soit physiquement, dans ton style de jeu, ta manière de jouer, ce serait quoi?
Baguette magique?
Ouais.
Bah, shoot, c'est goal.
Ok, ton shoot. Très bien. Kaonashi sur Twitter qui demande, comment tu fais pour être si courtois après les défaites et livrer des interviews qui ne manquent jamais de sel? C'est vrai que tu es très apprécié aux interviews, même après une défaite.
Moi, je pense qu'avec le temps, c'est aussi l'expérience de je pense, savoir ce que tu peux dire ou pas, mais en même temps, en restant assez honnête. Et puis, ouais, ces interviews un peu chiants où tu te dis, on a travaillé fort, c'est pas trop ma cam. À la fin, je veux dire, si on a perdu, ben je pense le premier à être vraiment énervé. Et puis du coup, ça m'aide aussi peut-être à extérioriser ce que je pense. Et puis du coup, voilà, c'est comme ça.
Très bien. Juste pour que Laurent soit content et toi aussi, Gaëtan, une question de EHC Bilbien Fans, la page Insta, qui rappelle que lors du Skill Camp des Oilers en 2019, tu avais terminé troisième du concours de vitesse, juste derrière Connor McDavid, deuxième. Le premier, c'était le Suédois Joachim Nygaard. Tu avais fait le tour de la patinoire, 14 secondes, 68 centièmes, et c'était 14 secondes et 4 centièmes pour Connor McDavid. Il demande, du coup, ça te fait quoi d'être si proche de Connor McDavid en termes de vitesse sur ce concours-là?
Moi, je serais souvent étonné que lui soit si proche de moi.
Il a mal pris, hein, visiblement, parce qu'il a progressé depuis.
Non, mais bon, je veux dire, j'ai toujours été quelqu'un assez rapide. Et puis, ben, ouais. Ça me fait ni chaud ni froid, mais je veux dire, ouais, c'est bien.
Laurent, on n'en a jamais parlé, mais toi, ça te fait quoi d'avoir été si proche d'un appel à Connor McDavid la saison dernière? C'est le pari, hein. C'est le pari.
Un match, une victoire. Mais c'est encore quoi, 2 ans de contrat?
2 ans, oui.
2 ans, on va encore plonger 3 derrière. En 5 ans, on va y arriver. Hein. Ce titre, on va y arriver. Bien.
On va le faire.
Puis là, on l'appelle, hein, Connor. Hein. Là, on l'appelle. Hein.
Mais écoute, le numéro est toujours enregistré. Après, s'il a changé ou pas, je ne peux pas te le dire.
On passe dans les questions. En dehors du hockey, Denis qui demande si tu as contacté le duo club parce qu'il recherche des DJ. Il a bien suivi la Stammtisch, hein. C'est toujours un objectif.
C'est incroyable, il y a tout le monde qui me parle de DJ quand même. Ah, ça peut être un objectif. C'est vrai que j'aimerais bien apprendre à mixer un peu. Mais du coup, il faut encore un peu de travail.
Mais cet été, messieurs, on organise une soirée Stammtisch au duo. On prend contact avec Sacha D'Antonio.
C'est pas mal, hein. Bonne idée de concert. Excellent, ouais. Bravo. Bravo. Ouais.
Ah, je suis là, alors.
Ça marche.
C'est moi l'invité.
On invite tous les joueurs. Tu verras, ça va. On négocie un petit pourcentage quand même. Hein.
Et une question de quelqu'un qui a souhaité rester anonyme via Facebook, juste pour savoir, c'est quoi ton lieu préféré à Bienne?
Mon lieu préféré à Bienne?
Ouais.
Lago.
Lago.
Le Lago, c'est
bon conseil.
Bonne bière, toujours quelqu'un que tu connais, c'est dehors, à côté du lac, et puis ouais.
C'est noté.
Bon enfant, enfin, je veux dire, bonne ambiance.
Cyril, nous, on ne saurait pas choisir. Hein.
Vous avez le choix.
Non, c'est un des bons publics. Nous.
Et cette personne-là demande une deuxième question, d'ailleurs, ça donnera l'envie peut-être de découvrir certains styles à d'autres personnes. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, comme morceau actuellement? Ce sera la dernière question d'auditrice ou d'auditeur.
Franchement, j'écoute de tout. Après, on va dire un peu de rap français.
Du rap français, c'est noté. Un artiste en particulier?
Non, franchement, j'aime bien Gazo actuellement.
Ok, très bien, Gazo. Qui va voir ses streams sur Spotify augmenter après cet épisode.
Moins un pourcentage.
Merci beaucoup, en tout cas, à vous toutes et tous qui avez posé des questions via les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, notamment Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à parler du podcast autour de vous et à vous abonner à notre page Instagram. On passe maintenant à mes questions pour vous, messieurs. C'est le quiz.
Dernière tournée.
Un quiz sur toi, Gaëtan Haas. Tu es le thème du quiz. C'est 3 réponses qui ont un lien avec toi, en tant que hockeyeur ou en tant qu'homme. Une règle, on a droit à une seule réponse et ensuite, il faut attendre que les autres proposent une réponse avant de pouvoir en proposer une deuxième. Le premier qui répond juste. Alors, c'est tout simple, hein. Je ne suis pas allé chercher très très loin pour ce quiz-là. La première question, messieurs, on cherche un joueur de hockey, un défenseur.
Ben, moi.
Non, elle est morte. Non, c'est pas vrai.
Un défenseur formé à Bienne, il est passé par Holton, par Ajoie.
Rouillet.
Bien joué. Anthony Rouillet, ton témoin de mariage.
Aucune chance, hein, les deux.
Aucune chance. Effectivement, c'est ça le but, parce que c'est Laurent qui gagne tous les quiz.
C'était ton témoin de mariage.
Ouais.
Et toi, tu étais témoin avec Pedretti de Kevin Fay.
Exact.
C'est toujours entre hockeyeurs ou bien il y a la possibilité des fois de...
Oh, possibilité. Mais moi, je veux dire, Anthony, je le connais vraiment depuis très, très, très long. Enfin, c'est pas que je l'ai connu tout d'un coup dans une équipe en Liga. Et puis, je pense qu'on a... tout vécu ensemble, donc ouais.
La deuxième question, messieurs. Le but, c'est que Laurent, pour une fois, ce soit pas toi qui gagne. Pour l'instant, c'est Gaëtan. On cherche une équipe de hockey. Elle a changé de nom en 2014. Elle joue dans un stade en banlieue de Phoenix.
C'est l'équipe. Arizona.
Bien joué. Voilà, les Coyotes de l'Arizona. Pourquoi le nom de cette équipe? Ça, maintenant, faut trouver la raison. C'est évidemment celle de Yanis Moser que tu as battu en tant que sportif de l'année 2023. Ça, faut le souligner. Mais surtout.
Grosse victoire. Il a dit, c'est une grande fierté.
La vraie raison, tu l'as sait, Gaëtan, pourquoi j'ai sélectionné cette équipe-là en particulier, si je te dis le 4 novembre 2019.
Ton premier goal.
Tu t'en souviens bien, c'était un peu particulier, ton premier goal.
Ouais, disons qu'il n'a pas beaucoup de goals à NHL.
T'en as 7, sauf erreur.
7, c'est toujours 7 de plus que Lolo.
Je crois que j'ai fait un papier sur chacun de tes goals, pratiquement.
Bon, ben, si tu comptes le nombre de minutes aussi, c'est un bon ratio, je pense. Hein.
Ouais.
Tes coéquipiers ne savaient pas que c'était toi qui avais marqué. Ah, tes coéquipiers pensaient que c'était lui. C'était un peu particulier comme premier but en NHL.
Assez particulier, ouais. Mais bon.
Il avait une poisse avec les points. Je me souviens une fois, il avait fait une belle passe. Et puis tu vois dans la vidéo, il est en train de sortir de la glace au moment où il y a le gars qui marque. Puis c'est un autre qui a eu de plus. T'es un peu la poisse, toi.
C'était une égalisation 2-2, 56e minute. Vous aviez quand même perdu en prolongation 3-2.
J'ai plus joué en prolongation, je pense.
Ok, ça, je n'ai pas regardé. Est-ce que t'as quand même gardé ce puck?
Oui, je l'ai raison.
Ah, magnifique.
Non, ils ont bien fait ça. C'est encadré. Bien fait.
Super. Ben, t'as gagné, c'est 2-0. Mais la troisième question, quand même, c'est du calcul mental. Vous pouvez marquer le point de l'honneur, messieurs.
Bon, je les laisse.
La racine carrée de 1024, ou bien, plus simple, 2024 moins 1992.
J'ai pas du tout commencé, je les laisse.
2024
moins 1992.
Ça fait 32.
C'est l'âge de Gaëtan ce mercredi prochain. Tu fêtes ton anniversaire.
Non, c'est mon année, en fait, là. Ouais,
c'est ton année. 32 ans, le 31 janvier. T'as sauvé l'honneur. D'ailleurs, on a une question de Jean-Philippe qui demande, est-ce que tu as contact avec ton jumeau de date d'anniversaire, un certain Tyler Seguin?
Zéro
contact. Mais 32e anniversaire, mercredi prochain, c'est jeune. Tu le vis bien, évidemment.
Jeune. je dirais jeune dans la vie normale, mais la vie active. Mais c'est vrai que, OK, tu commences à regarder autour de toi, puis tu te dis que tu n'es plus le plus jeune.
N'oubliez pas ce jeudi de ce type d'anniversaire à Lyndon, qui fêtera...
Allez, c'est la fin.
Qui fêtera ses 13 ans.
Non, tout le monde dit que j'ai 13, alors qu'en fait, j'ai 16. Ouais. Mais bon... Merci beaucoup Gaëtan, on est déjà à plus de 45 minutes d'avoir accepté une cinquième fois notre invitation depuis 2021. Belle suite de saison à toi. On va rappeler le programme. Bien qui seront à Zurich vendredi, qui accueille Langnau dimanche soir 20h. T'aimes bien les matchs du dimanche soir?
Pas du tout.
Pas du tout, c'est clair.
Ah, c'est clair, non. Il y a beaucoup de choses, je pourrais dire, mais... qui me plaisent pas, mais voilà.
Tu préfères jouer vendredi, samedi plutôt que le dimanche soir?
Ouais, alors... Tu peux, mais oui.
C'est quoi, il y a soirée d'Eric ou bien Colombo sur ProSieben ou bien c'est...
Non, mais c'est au moins t'as un jour de congé le dimanche, quoi.
Si vous voulez quand même aller à la Tissot Arena samedi, c'est possible parce que c'est journée don du sang et séance d'autographe ce samedi 27 janvier à la Tissot Arena. Ça, c'est le programme. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci, Cyril. Merci, Laurent. Merci à vous qui nous écoutez. On se retrouve dans 2 semaines sur votre plateforme de podcast préférée et sur RJB. Bye bye.
Jeune.
Ciao tout le monde.
Ciao.
C'était l'Hashtag Tiche, toute l'actu du HCBN proposée par Ajour, RJB et le Journal du Jura.